Alléluia. Alors, merci Pasteur Pascal. On dit Pasteur Pascal, on dit juste Pascal ou Monsieur le Pasteur, le grand révérend. Oh, ça me fait vraiment plaisir. En fait, c'est ma toute première fois à Nîmes et vous avez vraiment une très, très, très belle ville. Hein. Félicitations. Vous pouvez vous applaudir. Et si jamais je dis quelque chose, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est juste parce que parfois, ma tête organise encore des choses sur un format américain. Voilà. Donc, mais demandez au Saint-Esprit qui vous donne le don d'interprétation des langues et tout ira bien. En fait, on était là, Philippe, je suis venu avec Philippe Gablin. Philippe, est-ce que tu peux te lever? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Depuis une bonne dizaine d'années, la formation EQUIP, formation pour le leadership, tu as fait combien? 23 pôles de formation, et qui est vraiment un travail extraordinaire. Vous savez que EQUIP, c'était quelque chose, un programme qui était mis en place par John Maxwell, qui est très connu dans le milieu du leadership, et c'était vraiment envoyé dans chaque pays du monde. Je ne sais pas combien de leaders ont reçu cette formation. 6 millions de leaders à travers le monde. La France était l'un des derniers pays à lancer la formation. Et je peux vous dire, rien que utiliser un mot anglophone en France, cela fait énormément d'opposition. Avant de même regarder le contenu de la formation, on a dit « leadership, c'est américain, niette ». Mais une fois lancé, je peux dire que la France a fait plus au niveau de la formation que n'importe quel autre pays du monde. Bon, parfois, on n'est pas les premiers à démarrer. Mais quand on démarre, c'est difficile à nous arrêter. Amen. Amen. Ben, cet amen était faible. Ouh, je vais le redire, quand même. Je ne me souviens plus ce que j'ai dit. Non, mais c'était très bien. Voilà, on n'est pas toujours le premier à commencer, mais lorsqu'on commence, on a du mal à nous arrêter. Amen. Amen. Ouh, OK. Alléluia. Alors, aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de vous présenter ce que j'appelle une introduction aux alliances. Une introduction aux alliances. Et si, à la suite de ce message, vous dites, waouh, ça me parle, j'aimerais avancer dans mes études, j'ai amené une toute petite quantité de livres qui expliquent beaucoup plus en avantage cet enseignement. Donc, il y a 9 exemplaires. S'il te plaît, pasteur, ne l'achète pas parce que je vais t'envoyer un petit cadeau cette semaine dès que je suis de retour à Paris. OK? On va lire un texte en Hébreux chapitre 13 et le verset 20. Hébreux 13 et le verset 20. Si au cas où il y a plus que 9 personnes qui aimeraient le livre, vous pouvez aller sur notre site et acheter online. Le site, c'est R pour Robert, K pour Catherine, Baxter pour moi, .com. OK, rkbaxter.com. Et voilà, ça nous ferait plaisir de vous envoyer un exemplaire. OK, Hébreux 13 et le verset 20. Et on va aller très vite. Très, très, très vite. C'est vraiment un survol. Et survol veut dire survoler. OK? Voilà. Pour ne pas être trop compliqué. OK, Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et Seigneur, nous voulons vraiment te remettre ce moment de partage. Seigneur, donne-nous le cœur de Marie qui s'est assise au pied de Jésus pour recevoir la meilleure part. Seigneur, que ta parole qui est parfaite, qui est redoutable, puisse passer à travers cet outil afin que cette parole puisse pénétrer dans la profondeur de nos cœurs avec cette autorité divine pour nous transformer à l'image de Jésus. Nous libérons maintenant par notre foi l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Et c'est dans son nom que nous le prions. Amen. Alors, si vous avez noté dans ce texte que nous venons de lire, il y a un lien direct entre une alliance et les provisions de Dieu nécessaires pour accomplir sa volonté. Il y a toujours un lien entre une alliance et tout ce dont nous avons besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Toujours un lien. Est-ce que ça vous est jamais arrivé dans votre foi d'arriver dans un endroit où vous êtes sûr qu'il y a une volonté de Dieu à faire? Alors, que ce soit à pardonner quelqu'un difficile, à aimer quelqu'un encore plus difficile, je ne sais pas, mais que Dieu te demande de faire quelque chose et tu dis, Seigneur, j'ai plus d'essence dans le réservoir. Je n'arrive pas, malgré l'engagement de mon cœur, il semblerait qu'on est en panne de ressources. Ok, ne levez pas tous la main en même temps, mais en fait, je suis pasteur depuis bien longtemps. Voilà, je suis devenu pasteur à l'âge de 21 ans. Et même avant ça, j'étais toujours responsable d'un club biblique depuis l'âge de 14 ans. Donc ça fait vraiment toute ma vie consacrée à accompagner les brebis de Dieu. Et la chose c'est pas vraiment une frustration, mais qui m'agace parfois, c'est cet engagement de faire quelque chose pour Dieu, faire la volonté de Dieu, agir comme Dieu veut qu'on le fasse, mais d'être en manque de ressources. Si c'est le cas, il faut bien suivre ce survol sur les alliances, parce que l'alliance est là justement pour nous ressourcer. Alléluia. Alors, dans la Bible, il y a 7 alliances. On n'a pas 7 divines alliances. Okay? Je fais une distinction entre une alliance humaine et une alliance divine. Il y en a 7. Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 8. 7. 7 en hébreu est symbolique ou symbolise la perfection ou la maturité ou l'achèvement de quelque chose. Quand tu vois quelque chose qui se répète en forme de chiffre 7, ça veut dire qu'on parle de la maturité ou quelque chose qui est entière. Donc, 7 alliances. Et on va vraiment faire très, très, très vite une très courte description de toutes les 7 alliances divines dans la Bible. Mais j'aimerais tout d'abord vous donner 7 principes avant de commencer. Déjà, principe numéro 1, Dieu est un Dieu d'alliance. Est-ce que vous pouvez le répéter avec moi? Dieu est un Dieu d'alliance. Numéro 2, tout ce que Dieu fait sur la terre, il fait à travers une alliance. Tout ce que Dieu fait sur la terre, il fait à travers une alliance. Si jamais Dieu agit d'une manière particulière que tu ne comprends pas, regarde les paramètres de son alliance et vous allez comprendre pourquoi Dieu le fait. Il y a quelques exceptions dans la Bible. Vous vous souvenez l'histoire du prophète Balaam. C'était au moment où Israël sortait d'Égypte. Le roi Balak a fait appel à Balaam pour venir et maudire les Israélites. La Bible appelle Balaam le prophète de l'Éternel. Ce n'était pas un hébreu et on ne sait pas pourquoi. Bon, c'est vrai, il y a des exceptions dans la Bible. Dieu, il est Dieu, il peut faire ce qu'il a envie de faire. Amen. Et parfois, ses actions sembleraient un petit peu arbitraires. Mais quand ça revient à son peuple choisi, un peuple élu, Dieu nous donne un contrat qui est imbrisable. Dieu ne peut pas transgresser son alliance. Quand il fait une promesse, Dieu se lie à cette promesse. Et il est impossible pour Dieu, quelqu'un me dit toujours, j'aime bien parler avec les athées, parce qu'un athée n'existe pas vraiment. Mais j'aime bien quand les gens disent, y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Oui, Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible, parce que Dieu a décidé au fond de lui, quant à l'être humain, quant à nous, à sa création, faite à son image, sa parole est liée à sa nature. Les deux sont inséparables. Dieu ne peut rien dire qui est conflictuel avec sa nature. Sinon, s'il le fait, il n'existerait plus, qui est impossible. Dieu existerait toujours. OK, vous me suivez? OK, si jamais je vais trop vite, levez la main et dites « ralentissez-vous ». OK. 3. Toute alliance divine est scellée avec le sang. Toute alliance divine. Les 7 alliances bibliques, les 7 alliances divines sont toujours scellées avec du sang. Pourquoi le sang? Je sais, on n'a pas cette notion de venir au culte et faire couler le sang d'un animal. C'est vrai. Même si on le fait, ça serait un petit peu bizarre. Vous êtes d'accord? Donc, mais souvent dans nos chants, on parle du sang de Jésus, on plaide le sang de Jésus, on invoque le sang de Jésus. Et puis, pour un nouveau arrivé, il peut dire, waouh, ils sont un peu cinglés ici parce qu'ils parlent toujours du sang. Mais dans la Bible parle du sang. Pourquoi le sang? Il y a deux textes. Il y a un qui est en Genèse, juste après le déluge. Dieu, il dit dans la Bible que l'âme de l'animal est dans le sang. Et puis en Lévitique, il dit que la vie est dans le sang. C'est-à-dire que l'animal, le sang d'un animal représente un sang innocent. La vie d'un innocent doit être donnée en faveur du coupable. Le sang innocent versé pour le coupable. Vous me suivez? OK? Et toutes les alliances divines, il y a toujours le sang. Principe numéro 4, ça c'est très puissant. Et c'est, si on ne comprend pas ça, on ne comprendrait pas pourquoi Dieu est un Dieu d'alliance. Pourquoi faut-il une alliance? Une alliance établit un lien entre le ciel et la terre. Une alliance établit un lien entre le ciel et la terre. Il y a dans la création le langage de l'alliance, même si on ne voit pas de sang. Il n'y a pas de sang parce qu'il n'y a pas eu de coupable. Mais tout le langage de l'alliance est présent dans la création du monde. Et nous voyons Dieu qui marchait dans le jardin en communion parfaite avec sa création. Et c'était la chose qui était perdue lorsque Adam et sa femme ont décidé de pécher contre Dieu. Le lien était coupé. Donc chaque alliance divine rétablit ce lien entre le ciel et la terre. Ça, c'est le principe 4. Principe 5 est attaché au principe 4. Vous vous souvenez l'histoire de Jacob? Lorsque Jacob a quitté Isaac pour aller vivre avec son père, son beau-père, son futur beau-père, Laban. Il s'endort dans un endroit. Et si vous regardez bien dans la Bible, c'est le dernier endroit où il a dormi sur la terre promise. Avant de franchir... Et la terre promise, c'était quoi? Ça faisait partie de l'alliance. Et dans le sommeil, il fait un rêve. Vous vous souvenez? Et qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve? Il a vu une échelle, un lien. Un lien entre le ciel et la terre. Et qu'est-ce qu'il voyait sur l'échelle? 10 anges. Et que faisaient les anges? Ils descendaient et ils montaient. En fait, il y a eu un trafic angélique. Il y a eu de la communication spirituelle entre le ciel et la terre. Voilà le principe 4. On voit le lien. Et Jacob, il regarde en haut de l'échelle et qu'est-ce qu'il voit, Jacob? Quelqu'un se souvient? Il voit une porte. Ça, c'est le principe numéro 5. L'alliance divine, il établit le lien et il ouvre une porte pour que l'homme puisse avoir un accès à Dieu. Et quand il se réveille, il dit, waouh, Dieu était où? Dieu était dans cet endroit et je ne le savais pas. Donc non seulement est-ce qu'une alliance ouvre une porte au ciel pour que l'homme puisse avoir un accès à Dieu, l'alliance ouvre une porte sur la terre pour que Dieu puisse avoir un accès à l'homme. OK? Ça, c'est le cinquième principe. Sixième principe, si tu étais le diable, imaginez un instant que tu es le diable. Ah non, c'est une mauvaise imagination. On va juger cette imagination, d'accord? Mais si tu es le diable et tu sais que la puissance du ciel se trouve sur cette échelle, qu'est-ce que tu vas chercher à faire? Tu vas chercher à démolir cette échelle. En fait, il faut comprendre, la Bible appelle le diable notre adversaire, mais en fait, il n'est pas contre toi. Si tu meurs aujourd'hui et que tu vas au ciel, ça ne le dérange pas. Il ne veut pas le ciel, il veut la terre. S'il peut te faire disparaître de la terre le plus facilement, plus vite possible, il sera très content que tous les chrétiens disparaissent maintenant pour qu'il n'y ait plus de témoignages sur la terre, parce que c'est la terre qu'il veut. Alors, il n'est pas vraiment contre toi. Ce qu'il est contre, il est contre l'alliance. S'il peut détruire une alliance, il gagne, parce qu'il n'y aura plus d'accès sur la terre. Donc, Dieu est un faiseur d'alliance. Le diable est un briseur, casseur d'alliance. Et quand nous, le peuple de Dieu, quand nous marchons dans cette culture d'alliance, on marche dans le reflet de notre Dieu. Mais dès qu'on se livre à l'indépendance et l'autosuffisance, quand on vit et on mène notre vie à notre sauce, de notre façon, etc., et on devient un casseur d'alliance, on vit dans un reflet de la nature du diable. Amen ou oulala. OK. Et puis, septième principe, l'homme est créé pour marcher dans l'alliance. Alors, quelles sont les sept alliances? Très vite. Première alliance, c'est l'alliance que Dieu a refait avec Adam après le péché. Bon, c'est vrai que le mot alliance n'apparaît pas. Mais il y a preuve comme quoi Dieu a versé du sang pour couvrir Adam. Comment nous pouvons le savoir? Qu'est-ce que Dieu a donné comme cadeau à Adam? La peau d'un animal, voilà, tout à fait. Et Dieu ne l'a pas acheté au magasin. En fait, Dieu, bien évidemment, il a tué un animal. Dieu a versé du sang pour couvrir son âme. Une autre indication que Dieu a fait alliance avec Adam, après le péché de Caïn, lorsqu'il a tué son frère, la Bible dit qu'il s'est éloigné de la face de Dieu. Ça veut dire que la face de Dieu était toujours avec Adam. Et aussi longtemps que Adam vivait sur la terre, qui était un petit en dessous d'un millénaire, il y a eu une alliance sur la terre. Et les anges montaient et descendaient. Alléluia. Mais dès que Adam meurt, l'alliance disparaît et toutes sortes de mauvaises choses se déversent sur la terre. À tel point que Dieu dit, je vais détruire la terre. Et je recommence avec Noé. Et Dieu refait alliance avec Noé. Ça, c'est la deuxième alliance. Dieu va augmenter la puissance de l'alliance parce qu'avec Noé, Dieu crée tous les paramètres pour un état civil. Bon, ça, c'est toute une discussion à faire ultérieurement. Mais la notion d'un état civil commence avec Noé. OK? Aussi longtemps que Noé vit, l'alliance existe sur la terre. Dès que Noé meurt, encore une fois, la terre se jette dans les ténèbres et on voit l'époque des empires, la naissance des empires, l'esclavage. Un être humain met en esclavage un autre être humain. C'était jamais vu avant. Et Dieu cherche un autre homme avec qui il va établir une autre alliance, mais différemment. Ça commence avec la lettre A. Merci. Abraham. Dieu trouve en Abraham un homme fiable et avec lui, il établit la troisième alliance, mais cette fois-ci, il fait en sorte que l'alliance soit transférable. Et ce n'était pas juste pour Abraham et pour sa génération, mais c'était aussi pour Isaac, Jacob, les 12 fils de Jacob, ou les 12 fils, parce que Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Donc, pour les 12 fils d'Israël, et puis tous les descendants d'Israël, qu'on appelle les enfants d'Israël. OK? Dieu, dans la promesse à Abraham, consistait principalement, bon, il y avait pas mal de choses, mais principalement trois choses. Déjà, Dieu lui a promis une terre. Dieu lui a promis une descendance physique. Et Dieu lui a promis une semence, ça veut dire un de ses descendants, qui sera une source de bénédiction pour toutes les nations. Y a-t-il quelqu'un qui a profité de cette provision d'alliance? Quelqu'un m'écoute ce matin? Vous êtes encore là? OK. Nous sommes tous bénéficiés de la promesse, de la provision d'alliance que Dieu a donnée à Abraham. Mes amis, le christianisme n'a pas commencé avec l'apôtre Paul. La foi commence avec Abraham. OK, ne criez pas tous en même temps. OK, mais c'est vrai. Sans Abraham, on n'aura pas notre alliance. Nous n'avons pas l'alliance d'Abraham. J'arrive à l'alliance que nous avons. Nous n'avons pas l'alliance d'Abraham. Nous avons une autre alliance. Alors maintenant, chose aussi que j'ai oublié de vous dire dans les principes, Dieu ne change jamais. Amen. Le Dieu qui existe aujourd'hui, c'est le même Dieu qui a toujours existé depuis l'éternité passée. Et c'est le même Dieu qui existera pour l'éternité future. Il ne peut pas changer, même s'il avait envie. Il n'a pas envie, mais s'il avait envie, il ne pourrait pas. Parce qu'il est entier. Il est parfait. Et tu ne peux pas changer ce qui est parfait et entier. Amen. Donc, par contre, avec chaque changement d'alliance, il y a une modification sur l'échelle. Et la façon que l'homme aura un accès vers Dieu va changer. Et la façon que Dieu aura un accès à l'homme va changer. Parce que chaque fois que Dieu change les paramètres d'une alliance, c'est l'accès qui change. Pas Dieu qui change, mais l'accès qui change. Ça, c'est très important. Quand je vois certains chrétiens qui commencent à découvrir l'alliance d'Abraham et qui se disent, « Ah, mais c'est comme c'est la première, c'est vaut mieux abdiquer notre alliance pour vivre dans l'alliance d'Abraham. » Ils ont grand tort. Parce que cette alliance est terminée. Ce qui existe, c'est notre alliance. J'arrive dans un instant. Et ce n'est pas à nous de changer les paramètres de l'alliance. Ça appartient à Dieu. OK? Après Abraham, quel autre personnage très important qui figure dans l'Ancien Testament? Merci, Moïse. Avec Moïse, Dieu, c'est une nouvelle alliance, mais plutôt une modification de l'alliance d'Abraham. Et on voit vraiment à quel point, en changeant l'alliance, en changeant les paramètres de l'alliance, les accès vers Dieu changent. N'est-ce pas? Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il donne à Moïse qu'il n'a pas donné à Abraham? Déjà, il lui a donné une loi à suivre. Dieu, il a dit, maintenant, quand vous voulez m'adorer, venez dans mon tabernacle. Abraham, il est allé sur les hautes montagnes. Maintenant, adorer Dieu sur les hautes montagnes, interdit. Voilà. L'accès vers Dieu change. Pourquoi? Parce que Dieu a changé les paramètres de l'alliance. OK? Le prochaine alliance qui est souvent oubliée par les chrétiens, aujourd'hui, notre cinquième alliance, c'est l'alliance que Dieu a fait avec le roi David. Alors, pourquoi le roi David était aussi important? Vous vous souvenez, lorsque Jésus vient, on l'appelle le fils de David. Pourquoi le fils de David? OK? Parce que à cause du changement des paramètres de l'alliance. Dieu a fait quelque chose avec David qui n'existait pas dans l'alliance de Moïse. Notamment, David, le trône de David était établi pour l'éternité. Un trône éternel, la Bible dit. Donc, lorsqu'on criait Jésus, fils de David, en réalité, on criait le roi d'Israël. Et lorsque Jésus revient, mes amis, il reviendra pour se mettre sur le trône de David à Jérusalem. Mais ça serait encore peut-être un autre enseignement pour une autre fois. Dieu aussi a établi tous les paramètres pour voir un temple, qui est très important pour nous, parce que selon l'apôtre Paul, nous sommes quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ça, c'est un appel aux provisions d'alliance de David. C'est la cinquième alliance. Et après David, on arrive à l'alliance supérieure à toutes les autres alliances. C'est la sixième alliance et c'est normal parce que six est symbolique et parle de l'homme. Et Jésus, justement, est venu pour acheter l'homme. Donc, c'est ce qu'on appelle l'alliance messianique ou l'alliance du salut. C'est de cette alliance que nous avons lu en Hébreux 13, verset 20. Une alliance éternelle. Alléluia. Pourquoi cette alliance est plus puissante que toutes les autres alliances? Parce que cette alliance était scellée avec le sang humain et pas le sang des animaux. Un animal est innocent, mais uniquement parce qu'il ne peut pas pécher. La raison pour laquelle le sang de Jésus est supérieur, c'est parce qu'il était un être humain, il pouvait pécher et il ne l'a pas fait. Il a choisi de ne pas pécher. Et c'est la raison pour laquelle son sang est nettement supérieur à tout le sang d'animal qui existe. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est crucifié une seule fois et qu'une seule fois, et cela jusqu'à la fin des temps. Il n'y a plus aucune raison de faire un autre sacrifice pour le salut des hommes. Le sang versé il y a 2000 ans est encore autant aussi puissant aujourd'hui qu'il était le jour de son sacrifice. Et je suis sûr et certain, mes amis, je vais demander à Steven Spielberg un jour de créer un film là-dessus. C'est un juif. Mais j'imagine le jour de la crucifixion, lorsque le premier goutte de sang tombe de sa main et touche la terre. Et le son retentissant dans la dimension spirituelle était absolument extraordinaire. Le sang parfait versé pour l'humanité perdue. Alléluia. Oh mon Dieu. Quand j'ai commencé vraiment à me plonger et... Il faut comprendre, Dieu ne te pardonne pas parce qu'il t'aime. Il t'aime. Amen. Mais la Bible ne dit pas en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a pardonné à tout le monde. Merci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en croix, en sacrifice. Pour établir une nouvelle alliance. Toi, tu n'as pas d'alliance avec Dieu. C'est Jésus qui a cette alliance. Et lorsque je crois en lui, quand je l'invite à venir dans ma vie, être mon Seigneur et mon Sauveur, j'entre en lui et je deviens bénéficiaire d'une alliance que je n'ai pas achetée, pour laquelle je n'ai rien payé. Wouh! Et je vois la table de la Sainte-Seine et je ne sais pas si on va célébrer la table ou c'est juste de la déco. OK. Alors, c'est la raison pour laquelle cette coupe et ce pain, c'est plus que symbolique, c'est dynamique. Il y a un miracle qui se passe lorsque par la foi, nous prenons du pain et nous prenons de la coupe. Il y a un véritable miracle. Pourquoi? J'étais toujours dérangé par le passage en 1 Corinthiens, là où Paul nous dit, chaque fois que vous mangez de ce pain et vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Et je dis, je ne veux pas annoncer sa mort, je veux annoncer sa résurrection. Parce que la résurrection, c'est la vie. La mort, c'est la mort. Et c'est la mort, c'est morbide. Mais là, j'ai compris la puissance de l'alliance. Mes amis, nous avons une alliance non pas parce que Jésus s'est ressuscité. Nous avons une alliance parce que Jésus est mort. Bien évidemment, il est bien ressuscité. Mais la résurrection de Jésus n'est simplement la preuve que ce qu'il a fait sur la croix a bien inauguré une nouvelle alliance supérieure à toutes les autres. Alors maintenant, je sais de quoi vous pensez. Il y a quelques mathématiciens parmi nous. Vous avez bien compté. Le pasteur Robert n'a plus de temps pour prêcher, mais il n'a parlé que de 6 alliances. C'est quoi la 7e? Surtout que si la 6e est l'alliance supérieure à toutes les autres, qu'est-ce qui pourrait exister sur la planète comme 7e alliance? Comme il me reste vraiment plus de temps, il faut m'inviter, peut-être l'année prochaine, et je reviendrai. Non, il me reste encore 3 minutes. OK. Donc, et en fait, c'est ça la raison pour ce livre et les 2 autres qui vont suivre. En fait, c'est l'alliance du mariage. OK. C'est l'alliance du mariage. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, la Bible parle de l'alliance du mariage étant l'alliance de Dieu. C'est un langage qu'on n'entend pas très souvent. Mais la Bible, on est très clair. Malachie nous dit que Dieu permet une alliance entre un homme et une femme pour que les deux deviennent une seule chair afin d'obtenir par les deux, par leur union physique, une semence juste. Un enfant né par un homme et une femme en alliance est le fruit d'une alliance. Vous dites, OK, problème. Le sang, parce que tu as dit, Robert, toute alliance divine est scellée avec le sang. Mais où est le sang dans une alliance de mariage? OK, peut-être dans certaines cultures, j'en sais rien. Mais il tue un animal et puis le sang partout et on asperge le couple avec le sang. J'en sais rien. OK, mais il est où le sang? Et c'est ça qui est, on voit la génie de notre Dieu. Parce que, mesdames, c'est vous la porteuse du sang. OK, par la réaction, je comprends que tout le monde, peut-être il faut faire un petit cours sur comment faire des bébés. C'est possible. Mais, pour ceux qui en savent quelque chose, quand même, on sait que la première fois dans le mariage, lorsque la femme est pénétrée par l'homme, l'hymen est déchiré et elle saigne. Elle porte en elle le sang de l'alliance. Pourquoi vous pensez que Pierre y dit, dans le 3e chapitre, « Hommes, vivez avec vos femmes d'une manière honorable, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Où est le lien entre l'honneur entre l'homme et la femme et la prière envers Dieu? Parce que l'alliance du mariage établit une échelle entre le ciel et la terre. Et quand on traite notre partenaire d'alliance d'une manière déshonorable, on détruit l'échelle. Vous voyez, mes amis, l'outil qui va vraiment transformer le monde n'est pas l'Église. C'est la famille. C'est la famille qui est vraiment l'outil principal. Et d'ailleurs, mes amis, c'est la seule, le mariage, l'alliance du mariage, c'est la seule chose que Dieu a donnée à Adam dans la perfection de la création, dans le jardin d'Éden. Et Dieu a dit, tu peux partir avec. Et dans l'alliance du mariage, on a toujours un écho du jardin d'Éden. Ça fait appel à cet parfait équilibre entre un homme et une femme. Le parfait partage du reflet de Dieu. Est-ce qu'on obtient toujours cette perfection? Non, parce que souvent on ignore la puissance de l'alliance que nous portons. Si j'y suis aujourd'hui, c'est parce que principalement, je suis passé par un temps très difficile dans mon couple. Très difficile. Ma femme, c'est peut-être la femme la plus parfaite sur la planète. On l'appelle la quatrième personne de la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit, Catherine. Tout le monde demande, mais comment tu as pu épouser une femme aussi extraordinaire, Robert? J'en sais rien, Dieu l'a obligé à m'épouser. Mais juste parce que quelque chose évolue de Dieu ne veut pas dire que c'est facile. Et en toute honnêteté, on est passé vraiment par des temps difficiles. Je n'étais jamais tenté de chercher ailleurs, mais je dis, Seigneur, je suis mort, émotionnellement parlant, dans mon couple. Et je ne sais pas quoi faire. Et à force de prier, un jour, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, bénis ton alliance. Je n'ai jamais entendu une telle phrase de toute ma vie chrétienne. Bénis mon alliance. Il fallait que je cherche un petit peu dans la Bible ce que Dieu voulait en dire. Mais c'était ça ce qui m'a lancé vraiment sur cette enquête de ce qui est une alliance du mariage et la puissance de l'alliance. Aujourd'hui, Dieu, il a vraiment restauré mon couple. Il a ressuscité mes sentiments. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que nous avons un mariage parfait, parce qu'un mariage parfait n'existe pas. Amen. Si tu as deux personnes imparfaites, dans leur lien, tu peux pas retrouver la perfection, sauf dans la personne de Dieu. Une vraie alliance du mariage est une alliance triangulaire. Dieu devient la troisième personne dans cette alliance. Et une alliance vraiment faite dans la présence de Dieu est quelque chose de vivante. Elle vit cette alliance devant la présence de Dieu. Et chaque matin, j'ai commencé à bénir mon alliance. J'ai dit, Seigneur, je bénis cette alliance au nom de Jésus. En toute honnêteté, je ne pouvais pas, là où j'étais, je ne pouvais pas bénir ma femme. Mais j'ai pu bénir mon alliance. Est-ce que vous me suivez? J'espère que ça ne vous dérange pas que je suis un peu transparent avec vous. Mais parfois, on pense que tout baigne pour les pasteurs. Et non, on a aussi nos épreuves. On a aussi nos épreuves. Et je peux dire que l'alliance est puissante. OK? Tout ce qu'on a fait ce matin, c'est vraiment un survol, mais à une vitesse de lumière extraordinaire. Mais j'espère au moins qu'à partir d'aujourd'hui, vous serez nettement plus sensible à la puissance qui est en vous. Amen. Et que même en tant que famille spirituelle, qu'on chasse ce réflexe d'être un casseur d'alliance entre nous. N'oublions pas que la croix a deux morceaux de bois. Un morceau qui est vertical, qui évoque cette relation avec Dieu, cette alliance avec le ciel. Mais il y a un deuxième morceau de bois. Et ça, c'est un bois qui est horizontal. L'alliance que j'aurai avec vous n'est pas une alliance divine. Mais c'est parce que je suis dans une alliance divine que je peux faire une alliance avec vous. Et c'est quoi une église locale? C'est un groupe de gens qui ont fait alliance avec Dieu. Et grâce à ça, ils ont décidé de marcher dans une culture d'alliance les uns avec les autres. Ce n'est pas juste une question d'amour. C'est une question d'engagement. Parce que c'est dans cette culture, mes amis, c'est là où Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Je peux vous demander juste de vous lever les mains là où vous êtes. Alléluia. Seigneur, je prie. Je prie et je bénis ce pasteur, je bénis son équipe de responsables et je bénis tous les membres que tu as appelés et à qui tu as donné une grâce d'être membre de cette maison. Et je bénis leur engagement les uns envers les autres. Seigneur, tu nous demandes d'être un peuple d'alliance. Comme le roi David était un homme d'alliance, il a toujours fait des alliances autour de lui. Seigneur, aide-nous lorsque nous venons à la table ce matin. Aide-nous en recevant de ce pain, en recevant de cette coupe. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui à entrer pleinement dans la culture de l'alliance. Maintenant, je prie pour les couples qui sont en difficulté. Peut-être il y a une souffrance en silence. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu souffles, Seigneur, ce vent de l'espoir dans le cœur de chacun. Que tu leur donnes cette révélation de la puissance de l'alliance du mariage. Et comment tu es une troisième personne dans cette alliance. Ce n'est pas juste une question de leur force de couple. Parce que même quand ils sont faibles, toi tu es présent pour être fort. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, Seigneur, je demande vraiment, Seigneur Dieu, on a vraiment une possibilité avec les jeunes adultes aujourd'hui célibataires à construire avec eux une connaissance, une conviction sur l'alliance divine. Alléluia, aide-nous de les préparer pour ce qui est, à part la décision de suivre Jésus, ce qui est vraiment la plus importante de toutes les décisions à prendre dans la vie. La décision d'établir une alliance avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Seigneur, je bénis cette église, je bénis cette famille spirituelle par le nom tout-puissant, ce nom d'alliance, le nom de Jésus. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse.